Bonjour à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, c'est très simple, mais ça implique beaucoup. Sagesse et discernement. Je dois vous dire que, sur le plan humain, il peut exister une certaine sagesse, c'est vrai, on le reconnaît. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de la sagesse humaine. C'est de la sagesse qui vient par l'Esprit de Dieu. Une sagesse qui n'est pas humaine, mais une sagesse qui est d'ordre divin. Et ce sont là, parmi les dons de Dieu, les dons les plus précieux à avoir et à développer. Et on les développe par la pratique. Et notre vie devient meilleure à ce moment-là, et notre capacité à prendre de bonnes décisions s'améliore. Et Dieu nous donne dans sa parole tout ce dont nous avons besoin pour savoir comment obtenir cette sagesse-là, la sagesse divine, qui n'est pas de ce siècle, comme Paul parle, mais qui vient de Dieu, et comment l'appliquer, comment l'utiliser pour développer le caractère de Dieu. Et c'est vrai pour tous ceux et celles qui sont à l'Église du Dieu vivant, ceux qui sont baptisés, comme ceux qui ne le sont pas encore. C'est le même principe, c'est le même chemin, parce que Dieu donne de son Saint-Esprit, de sa puissance, avec ceux qu'il appelle pour qu'ils soient en mesure de se mettre en marche et de comprendre son plan et d'être capable de voir la splendeur de ce qui s'en vient, malgré les temps difficiles qui sont là autour de nous et qui sont devant nous. C'est vrai pour ceux qui ne sont pas baptisés et c'est vrai pour ceux qui sont baptisés, que ce soit depuis une année, 5 années, 20 ou 30 ou 40, comme c'est le cas de certaines personnes au milieu de nous. Allez à Actes 5, verset 32. Actes 5, verset 32. Ici, je vous donne l'information de base en ce qui concerne l'acquisition de la sagesse qui est d'ordre spirituel et qu'on aura besoin de plus en plus dans les mois et dans les années qui sont juste devant nous. Comment obtenir cette sagesse et ce discernement spirituel? Actes 5, verset 32. Ici, on voit que l'apôtre Pierre, on peut commencer au verset 39, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. » Il s'adressait aux Juifs, aux Israélites de son époque qui étaient autour d'eux, « en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon. Et c'est le chemin que chacun doit suivre lorsque Dieu l'appelle. » Et ça ne doit jamais s'arrêter tant que le Christ ne sera pas revenu et tant que nous ne serons pas transformés en êtres spirituels, tant que nous ne naîtrons pas dans sa famille. Et regardez ce qu'il dit au verset 22, et c'est la clé sur laquelle je veux attirer votre attention. Pierre et les apôtres dirent, « Nous sommes témoins de ces choses, de la mort, de la résurrection du Christ, et pourquoi il l'a fait, et ainsi de suite. De même que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné ou que Dieu donne à qui? À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Et il faut revenir là-dessus pour bien réaliser que pour obtenir le Saint-Esprit de Dieu, pour obtenir la force de Dieu, il nous faut obéir à Dieu. Ça ne veut pas dire être parfait. On ne peut pas être parfait tout de suite. Mais il faut être en train d'avancer là-dedans, de lui obéir. Donc, acte 5, verset 32. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Reportez-vous maintenant à 2 Timothée 1. On va voir d'autres choses en rapport avec ça, qui vont nous aider à comprendre davantage ce phénomène-là de la puissance de Dieu, que Dieu répand sur ceux qui cherchent à faire sa volonté, qui s'appliquent à développer de lui plaire. 2 Timothée, chapitre 1, et on va lire le verset 7. Paul dit à Timothée ici, « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? » Et là, ça définit un peu ce qu'est le Saint-Esprit et quelles sont ses caractéristiques. « Au contraire, son esprit nous remplit de force, premièrement, deuxièmement, d'amour, et troisièmement, de sagesse. Son esprit nous remplit de sagesse. » Alors, voyez-vous, la sagesse dont je vous parle, elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début du message que c'est un don qui nous vient de Dieu. ce n'est pas humainement qu'on peut arriver à cette sorte de sagesse-là dont je vous parle. Et ça prend une attitude de soumission envers Dieu pour que Dieu nous la donne. Et plus on met en pratique ses lois, plus on essaie de lui plaire, plus on marche avec lui, plus on lui fait confiance, plus on lui demande son aide, puis on en a besoin de son aide, hein, à tous les jours, puis à certaines journées encore plus que d'autres, plus on lui demande son aide dans l'attitude de faire sa volonté, plus ça lui fait plaisir de nous répondre et de nous donner son Saint-Esprit pour que nous ayons force, amour et sagesse, pour savoir quoi faire, comment réagir. Il y a un autre passage des Écritures qui confirme encore ce que je viens de vous dire, et très fortement. Allez dans Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 111. Et si vous connaissez votre Bible depuis longtemps, peut-être vous pourriez même réciter ce verset-là. C'est un verset qu'on apprend par cœur. Le Psaume 111. Commençons au verset 1, tiens. C'est David qui parle. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » Voyez-vous, David ne faisait pas les choses à moitié. Et Dieu s'attend à ce que, lorsqu'il nous révèle la splendeur de son plan, qu'il manifeste son amour envers nous en nous appelant, Dieu s'attend à ce qu'on le remercie de tout notre cœur. C'est pas quelque chose sans importance, là. Ça concerne non seulement notre vie maintenant, et une vie meilleure si on a la sagesse de Dieu, mais ça concerne une vie éternelle que Dieu veut nous donner, pour qu'on soit heureux éternellement et qu'on ait cette immortalité que nous n'avons pas actuellement. Alors, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, c'est ce que David dit, dans la réunion des hommes droits et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Quand on découvre le plan de Dieu, on se rend compte à quel point la vie vaut la peine, parce qu'elle débouche sur un monde tout à fait différent de celui où nous vivons et qu'elle débouche sur un avenir inimaginablement grand, heureux, paisible, satisfaisant, où on pourra accomplir plein de choses, mais dans une relation familiale harmonieuse avec le Père, avec notre frère aîné Jésus-Christ et avec les autres membres de la famille de Dieu qui seront alors ressuscités et devenus des êtres spirituels, nés de nouveau dans la famille de Dieu. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Et on apprend à les aimer. Plus on les découvre, plus on voit la grandeur de ce que Dieu fait, sa grandeur à lui, comment il nous aime, plus à ce moment-là, on les recherche, ses œuvres. Plus on cherche à lui plaire, bien, plus on fait ça, plus Dieu nous donne son esprit d'amour, de force et de sagesse. Son œuvre n'est que splendeur, verset 3, et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Et la base de tout ça pour Dieu, c'est son caractère parfait, son caractère juste et saint, sa justice. C'est pour ça qu'il en parle de cette façon-là ici. Et le même David, qui écrit avec tellement d'enthousiasme les trois premiers versets du psaume 111, regardez ce qu'il dit au verset 10, en nous indiquant d'où vient la sagesse dont nous avons besoin. Il dit au verset 10, « La crainte de l'Éternel, donc le respect de Dieu, le respect de ses voies, de ses lois. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Si on commence à avoir la sagesse, quand on commence à respecter les lois de Dieu, c'est parce que c'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse qui vient par l'observance des lois de Dieu, par le fait que Dieu nous donne à ce moment-là de son esprit. On a vu tantôt que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, donc à ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans la version Louis II, c'est écrit, « Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » La traduction plus exacte de ceci, si vous allez dans les textes originaux, ou même dans la version King James, ça dit ceci, « A good understanding have all those who do his commandments. » C'est-à-dire, tous ceux qui mettent en pratique ses commandements ont une bonne compréhension, comprennent les choses, ont le discernement dont je vous parle, et le discernement va exactement main dans la main avec la sagesse. Alors, si on reprend ça ici, ça dit la crainte de l'Éternel, un respect envers celui qui nous donne des lois pour être heureux, pour être en relation comme il se doit avec lui et avec les autres, pour accomplir son œuvre. Le respect de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et ceux qui s'appliquent à mettre en pratique ses commandements, à mesure qu'ils les découvrent dans la Bible, ceux-là acquièrent une bonne compréhension des choses. C'est ça que ça veut dire. Et rappelez-vous, quand vous êtes venu à l'Église, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est exactement le chemin que vous avez suivi. Vous avez commencé à comprendre certaines petites choses, ça vous a ébloui, ça vous a encouragé. Et vous avez commencé, à ce moment-là, à dire, si Dieu est vraiment réel comme ça, je vais mettre en pratique ce qu'il me dit. Vous l'avez fait, et là, il vous a donné de comprendre davantage de choses. Et en comprenant davantage de choses, ça vous a encouragé à faire mieux. Et le cycle a été enclenché comme ça, de sorte que Dieu a ajouté son Saint-Esprit, sa compréhension, même si vous n'étiez pas encore baptisé, jusqu'au jour où il a placé son Saint-Esprit en vous. Avant ça, son Saint-Esprit était avec vous pour que vous soyez capable de comprendre. Comme le Christ a dit à ses disciples, il dit, le Saint-Esprit est avec vous en ce moment, mais il sera en vous. En parlant du jour de la Pentecôte, là où ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, c'est-à-dire la présence, la puissance de Dieu en eux. Maintenant, je vais plus loin, parce que c'est important qu'on sache comment faire, sur le plan pratique, là, comment faire pour développer cette sagesse-là dont nous avons besoin aujourd'hui, et laissez-moi vous dire, dont nous aurons absolument, grandement besoin dans les mois et les brèves années qui viennent. Parce qu'il y aura beaucoup plus de turbulences autour. Et il faudra savoir comment agir. Et il faudra avoir la force de caractère qu'il faut. Et pour ça, il faut avoir la conviction qui va avec. Et pour avoir la conviction qui va avec, il faut avoir cette sagesse, ce discernement qui vient par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. La première façon, je vous donne trois moyens très simples. Il y en a d'autres, mais je vous en donne trois moyens très, très simples. La première façon, vous la trouverez dans Jacques 1 et le verset 5. Pas besoin de vous y reporter, Jacques 1, verset 5. C'est écrit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et nous en manquons tous au point de départ, qu'il la demande à Dieu. » C'est pas pour rien qu'ailleurs Dieu dit « Demandez, vous recevrez. » Demandez la sagesse. Comme on demande d'autres choses à Dieu en cours de route, pour faire sa volonté. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu vous ne vous reprochera pas de manquer de sagesse. Il sait que vous en manquez. Il sait que j'en manque. Alors, c'est pas surprenant pour lui quand je vais à genoux puis il se dit, Père, donne-moi la sagesse dans telle circonstance. Je ne sais pas quoi faire ou je comprends pas. Aide-moi à supporter la situation ou montre-moi comment en sortir. Donne-moi la force qu'il faut. Il n'en est pas offusqué, il n'en est pas surpris, mais il en est heureux parce qu'il veut qu'on développe une relation étroite avec lui où on va le voir réagir de plus en plus et nous répondre parce que Dieu est un Dieu qui répond. Et non seulement Dieu est un Dieu qui répond aux petites situations, mais il répond aux situations énormes, compliquées que nous avons à rencontrer dans chacune de nos vies à différents moments. Il répond. Et même si nous ne voyons pas la solution, même si pour nous il n'y a pas de solution possible, rappelez-vous que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, est le Dieu de l'impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Mais il répond à ceux qui cherchent. Et il répond à ceux qui le cherchent de tout cœur. Alors la première façon d'avoir cette sagesse, c'est de la demander. Première chose. Deuxièmement, comme on a vu que ce sont ceux qui mettent en pratique ses lois, qui font sa volonté, qui peuvent avoir son esprit, recevoir davantage de son esprit et comprendre les choses et savoir quoi faire, savoir quelle décision prendre ou avoir la force d'attendre quand on peut pas rien régler mais que tout doit venir de Dieu. À ce moment-là, il faut connaître la volonté de Dieu. Le deuxième moyen, il est très simple. Et c'est chaque jour qu'on le met en pratique. C'est l'étude de sa parole. C'est l'étude de sa Bible. À chaque jour, étudier sa Bible. Une étude quotidienne pour apprendre ses voies de plus en plus. Et même si on est dans l'Église, comme certains, depuis 30 ans ou 40 ans, on continue d'apprendre ses voies, de les approfondir, de faire des liens entre les choses qui sont expliquées et de comprendre la profondeur de Dieu, davantage la grandeur de son caractère et de ce qu'il est en train de faire. Et quand on fait ça, en même temps, c'est qu'on ne perd pas les choses qu'on a acquises. On bâtit dessus. C'est ça, c'est pour ça qu'on doit étudier chaque jour, qu'on ne doit pas se relâcher. Et quand les gens commencent à relâcher de prier, de demander à Dieu, de le remercier, et quand les gens commencent à relâcher d'étudier, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils deviennent plus faibles spirituellement. Comme si on cesse de se nourrir physiquement, on devient plus faible. C'est la même chose spirituellement. Quand Dieu nous montre le chemin à suivre, il faut y tenir et faire les choses de base qu'il faut. Et parfois, vous savez, si vous êtes comme moi, il y a des journées où on a moins le goût d'étudier. Mais il faut se discipliner à le faire. Pareil. Même chose. Pour prendre la nourriture dont on a besoin. Faut pas suivre nos émotions humaines, mais suivre ce que on sait devoir faire. Faut suivre ce qu'on sait devoir faire. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais faut les connaître, ces paroles-là. Puis il faut non seulement les avoir lues une fois, mais les lire, les faire nôtres, les mettre en pratique. Et comme je vous disais tantôt, faire les liens avec les exemples bibliques qu'on voit, puis les encouragements que tout ça nous apporte. L'étude quotidienne de la Bible. Et la troisième chose, elle est très simple, à voir avec les deux premières. La première, c'est de demander la sagesse à Dieu. La deuxième, d'étudier sa Bible chaque jour, et bien sûr de le prier, de s'en remettre à lui, de lui faire confiance. Mais troisièmement, c'est de mettre en pratique ce que nous apprenons. Quand Dieu nous dit de faire telle chose, il faut que nous prenions la décision de faire cette chose-là. Et même si on n'arrive pas à la faire parfaitement, immédiatement, s'appliquer à graduellement la faire de mieux en mieux en lui demandant son aide pour ça. Et s'il faut jeûner, on jeûne pour s'approcher de Dieu, pour lui demander son aide, pour faire sa volonté, pour vaincre telle faiblesse, par exemple. Dieu nous donne toutes sortes d'outils comme ça. Mais les trois moyens de base pour obtenir cette sagesse qui vient de Dieu, la demander, étudier sa parole chaque jour et mettre en pratique les choses que nous apprenons. Vous savez, la sagesse, qui est aussi le discernement, ça va nous permettre de résister aux séductions qui vont venir de plus en plus fortes, qui vont devenir de plus en plus fortes autour de nous et en nous aussi. Parce que l'adversaire travaille, il nous met dans l'esprit des idées, il nous met dans le cœur parfois certaines émotions qui peuvent nous détourner. Mais il faut s'appuyer sur le fondement solide de la parole. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ceux qui mettent en pratique ces commandements ont la bonne compréhension des choses. Vous savez, il y a plusieurs sortes de séductions qui peuvent nous amener en dehors du chemin de la vie éternelle. Et je veux vous en parler de quelques-unes aujourd'hui, juste pour vous amener à réfléchir, et moi aussi, pour qu'on soit solide sur nos deux pieds et qu'on soit solide dans notre relation avec Dieu, pour être capable de passer à travers des choses qui s'en viennent. La première séduction dont je veux vous parler, c'est la séduction religieuse. Séduction religieuse. Vous savez, on entend parler de plus en plus de religions dans le monde. Et le siècle où nous sommes, c'est un siècle qui voit éclore les guerres de religion de plus en plus. On le voit dans différents pays. Les questions liées à des principes religieux de part et d'autre. Et ça occupe le terrain, hein? On voit ici, même au Québec, avec la question des accommodements raisonnables, la question de la loi sur la laïcité ou ces choses-là, les aspects religieux sont en train de prendre le terrain un peu partout. C'est pas pour rien. Parce que tout ça amène énormément de confusion en ce qui concerne le monde de la religion. Et il y a de plus en plus de faux enseignants. Il y a de plus en plus de religions qui enseignent soit carrément le mensonge, dans certains cas, ou soit des demi-vérités. Mais une demi-vérité, ça a à peu près la valeur d'un mensonge. C'est comme si vous prenez un verre de jus d'orange. Si c'est juste du jus d'orange, c'est la vérité, c'est parfait. Mais si vous mettez la moitié d'arsenic dedans, ou de poison, puis la moitié de jus d'orange, c'est moitié-moitié. Vous dites, non, c'est pas complètement poison. Non, mais si vous le prenez, vous allez mourir quand même. Parce que ça a beau être moitié-moitié, c'est que ce n'est plus la vérité. Dès que ce n'est plus la vérité, à ce moment-là, on est en danger. Et c'est pour ça que je veux vous parler de ça, parce que il faut aller fouiller là-dedans, en être convaincu, la mettre en pratique, puis après ça, ne pas faire de compromis. Et faire attention, parce que ces subtilités-là vont être répandues de plus en plus. Il y a autour, je pense, c'est 2 milliards de chrétiens sur la face de la Terre, mais combien parmi ces 2 milliards-là environ de chrétiens font la volonté de Dieu? Beaucoup parlent du Christ, se disent chrétiens. C'est facile de parler du Christ et dire « le Christ a fait des miracles, le Christ a été gentil, le Christ a fait ci, le Christ a fait ça, je suis chrétien, j'aime Dieu, je donne mon cœur à Dieu et je suis en bonne condition avec Dieu. » Mais qu'est-ce que le Christ a dit? Qui va entrer dans le royaume de Dieu? C'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, elle est écrite ici, dans le livre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a des millions et même des milliards de chrétiens, environ 2 milliards, qui pensent sincèrement à être chrétiens, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Donc, ils n'entrent pas dans cette définition du Christ qui dit « Celui qui est chrétien vraiment, que mon Père aime et qui va entrer dans le royaume, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. » Dans le fond, c'est assez simple. Le chemin que Dieu nous donne à suivre, il n'est pas compliqué. Il est simple. Et quand on va voir dans les textes, on découvre exactement ce qui nous a été enseigné. Comme par exemple que la récompense de ceux qui sont fidèles au Christ dans la façon de vivre, c'est pas d'aller au ciel avec rien à faire durant toute l'éternité, mais que c'est sur la terre que le royaume sera établi, parce que le Christ va revenir sur la terre. C'est ce qui a été enseigné, c'est ce que le Christ a promis. Alors voyez-vous, tous ces gens qui croient sincèrement qu'ils vont aller au ciel ou que leurs êtres chers qui sont décédés et qui étaient des gens qui commettaient beaucoup de cruauté ou tout ça, sont en enfer pour l'éternité, c'est faux, il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. L'enfer a été inventé par un auteur italien, Dante Alighieri, qui a imaginé un scénario de la sorte et ensuite les grandes religions l'ont pris et ont adapté ces choses-là. Il n'y a pas de ciel pour récompense et il n'y a pas d'enfer pour punition éternelle, de souffrance éternelle. Comme si Dieu prenait plaisir après ça à voir souffrir des gens éternellement. C'est pas Dieu. On sait que, de par la Bible, que ceux qui vont refuser à un moment donné de se convertir, quand ils auront toute la chance, les gens ne sont pas tous appelés pour l'instant. Il y a juste un petit troupeau qui est appelé. Mais quand les gens seront appelés, s'ils refusent de se conformer à ce que Dieu demande, ou s'ils rejettent Dieu volontairement, à ce moment-là, Dieu, dans son amour, va simplement les détruire éternellement. Ils ne souffriront pas éternellement. C'est le contraire de ce que les gens ont appris. Les gens ont appris, par exemple, à prier les morts. Et les gens y croient sincèrement. Ils pensent que les morts, parfois, leur répondent. Alors que la Bible dit clairement qu'il n'y a ni pensée, ni œuvre, ni sentiment, ni rien dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que c'est un sommeil. Paul parle du sommeil de la mort. Pourquoi il y aurait une résurrection si les gens ne sont pas morts? Si les gens vivent quelque part ailleurs et qu'ils sont dans une bonne condition, pourquoi ils reviendraient prendre un corps? Ça n'a pas de sens. Alors que la Bible fait un sens. La parole de Dieu, elle est juste. Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu dans le passé, et ils auront à tour de rôle leur chance de comprendre les vérités bibliques qui vous sont montrées aujourd'hui par les serviteurs de Dieu. C'est ça. Alors, les gens croient ça honnêtement, sincèrement, mais ils sont induits en erreur parce qu'il y a une grande séduction qui s'étend sur la face de la planète et qui va s'étendre encore davantage qu'elle l'est maintenant. Nous, on a heureusement une grille de discernement, ça ici. La parole de Dieu. Ça, c'est la grille de sagesse et de discernement pour savoir quelle est la vérité. Et j'ai aimé ça parce qu'on a déjà fait un petit sondage auprès des membres de l'Église pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils étaient venus à l'Église du Dieu vivant? Qu'est-ce qui les avait attirés? Et plusieurs ont répondu, je me rappelle, la découverte de la vérité. Ils cherchaient ce qui est vrai. C'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Pourquoi on existe? Toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le Christ fait? Les gens ont accès à cette grille-là, la parole de Dieu. L'homme vivra non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on trouve exactement quoi faire, quoi observer. Si on va, par exemple, dans Ézéchiel 31, vous savez, la plupart des chrétiens dans le monde, sincèrement, je le crois profondément, pour la plupart, observe un jour qu'on appelle le dimanche, que les Anglais appellent Sunday, le jour du soleil. Et c'est vraiment le jour du soleil. Ce n'est pas le jour que Dieu a choisi pour mettre à part. Exode 31. Dès le début de la Bible. Vous savez, c'est pas surprenant. C'est Dieu qui détermine quel jour on doit observer. Aujourd'hui, nous, ici, nous observons le sabbat, le samedi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'était le septième jour de la semaine que nous devions observer. C'est lui qui l'a établi. Et Dieu a bien dit dans sa parole, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien à ma parole. Mais les religions du monde ont choisi de changer les choses, se sont arrogées l'autorité d'être capables de le faire, selon eux. Mais ça va directement à l'encontre de Dieu. Voyez ce que ce Dieu puissant dit ici concernant le jour qu'il a mis à part, qu'on voit dans Exode 20, le sabbat. Alors, Exode 31, versets 16 et 17. « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, voyez-vous, comme une alliance perpétuelle. » Perpétuelle, c'est perpétuel. C'est pour toujours. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le monde à venir, le sabbat sera encore observé. Si vous allez, si je me rappelle bien, dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, on voit que le sabbat sera encore observé dans le monde à venir, dans le monde de demain. Verset 17, en parlant du sabbat, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. » Alors, voyez-vous, quand Dieu nous donne de sortir de la confusion religieuse, on voit vraiment ce qu'il a demandé. On voit vraiment quel jour il a mis de côté pour que nous ne travaillions pas. Il nous a dit que le jour du sabbat, on ne doit pas travailler, on doit se reposer, étudier sa parole, aller à la sainte convocation, qui fait partie de l'assemblée de sabbat, et en faisant ça, on honore Dieu. Et on lui appartient. Et il dit, c'est un signe auquel on connaîtra que vous m'appartenez. Et on voit ça tout au long de la Bible. Même chose pour les jours saints. Quand Dieu nous révèle dans sa Bible quels sont les jours que lui a déterminés comme fêtes, c'est ces jours-là que nous devons célébrer. Ce n'est pas les jours que les êtres humains ont ajoutés. Et dans ce sens-là, la mission de l'Église, et vous regarderez n'importe où vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'églises, à part la vraie Église de Dieu, qui annonce vraiment le retour de Christ, qui annonce vraiment que le Christ établira un gouvernement mondial sur la face de la terre et que la loi de base sera les 10 commandements, y compris le sabbat et y compris les 7 sabbats annuels qui sont les fêtes de Dieu qui décrivent son plan. Trouvez le nombre d'églises qui enseignent ces choses-là et ça va vous aider à identifier où est la véritable Église de Dieu, celle qui accomplit la mission que le Christ lui a donnée en disant « Allez par toutes les nations, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ce que le Christ leur a prescrit, c'est exactement ce qu'il a inspiré ses disciples ou ses prophètes d'écrire dans les livres de la Bible. Parce que c'est le même. Le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce qu'il a dit à ses disciples de faire, il l'avait déjà mis par écrit par ses serviteurs d'autrefois. Matthieu 24. Matthieu 24. Vous connaissez ce chapitre-là. C'est le chapitre où le Christ donne les signes qui vont précéder son retour sur la terre. Et le premier avertissement du Christ, c'est justement par rapport aux séductions religieuses. Et je reviens à ça. Mon sermon, c'est de développer, d'avoir plus de sagesse et plus de discernement, de force, d'avoir l'esprit de force, de discernement et d'amour de Dieu pour vivre selon lui maintenant et d'être capable de passer au travers des temps qui s'en viennent. Et le premier avertissement que le Christ a donné, premier signe qu'il a donné, en disant « Voici à quoi vous allez reconnaître que mon retour est proche », on le voit à Matthieu 24, verset 3, « Le Christ s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est-à-dire de la fin de cette société actuelle. Ils voulaient savoir, eux autres aussi. Ils pensaient même que c'était de leur temps que ça allait se produire. Verset 4, regardez ce que le Christ leur dit. « Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, ça voulait dire qu'au temps de la fin, juste avant son retour, il y aurait un risque de séduction, d'être trompé. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup, beaucoup de gens. Mais vous, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises qui disent, le Christ est vraiment Dieu. Le Christ a fait ceci, il a fait tel miracle, comme j'ai mentionné tantôt. Mais qui disent pas aux gens, repentez-vous, changez pour plaire à Dieu. Sans ça, vous allez rester sous vos péchés et vous allez passer à travers la plus grande détresse qu'il y a jamais eue de tous les temps. Changez, il est encore temps. Regardez le verset 11 du même chapitre. Verset 11, le Christ prend la peine de répéter ici. Le Christ répète en disant, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les gens du monde, les millions, les centaines de millions de gens qui sont chrétiens, se disent chrétiens dans le monde, sont séduits. Ils croient à un autre évangile que l'évangile du Christ. Ils croient à un autre enseignement que l'enseignement du Christ, que celui que le Christ a donné. Et pour l'instant, ils sont captifs de ça, jusqu'au jour où Dieu va ouvrir leurs yeux après le retour de Christ. Là, ils auront leur chance. Beaucoup de gens disent, par exemple, j'en ai déjà vu, les quatre évangiles et l'Apocalypse, c'est pour les Juifs seulement. On ne peut pas comprendre ça, mais c'est pour les Juifs seulement. C'est pas pour les Juifs seulement. Quand vous regardez dès le début du livre d'Apocalypse, dans les premiers versets, c'est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. » C'est pas pour les cacher, c'est pour les montrer. Regardez le premier verset du livre d'Apocalypse qui dit exactement le contraire. Mais les gens sont dans la confusion, sont enfermés dans ces ténèbres-là, si vous voulez. D'autres vont dire, la résurrection qu'on voit pour le jugement, c'est parce que les gens vont être amenés à la vie, ils vont être condamnés tout de suite. Non! Quand Dieu va ramener à la vie par une résurrection tous ceux qui ont vécu dans l'histoire, c'est parce qu'il est un Dieu juste. Et quand il va les ramener à la vie, ce qui est représenté par la fête du dernier grand jour, il va leur donner, comme à vous maintenant, la chance de connaître son livre, de connaître le livre d'instruction et d'être enseigné ses voies et d'avoir le choix librement. C'est ce que Dieu va faire. Mais il y a beaucoup de confusion encore. Les gens ne croient pas ça. Les gens ne croient pas. Alors, la séduction, on peut se laisser attirer dans l'erreur. La plupart de l'humanité est dans cette erreur-là. Et on peut se laisser attirer aussi si on vient un peu à la vérité et qu'on ne prouve pas vraiment les choses. Quand les gens viennent à l'Église, on leur dit, prouvez les choses, prenez le temps d'étudier par vous-même. Posez des questions, vérifiez les choses. Parce qu'en bout de ligne, il faut que ce soit une conviction personnelle. Il faut que ce soit une conviction personnelle. Que vous ne suivez pas un homme, vous ne suivez pas une organisation. Bien sûr, si cet homme-là, ces hommes-là, cette organisation-là prêche exactement la Bible et que vous le prouvez, à ce moment-là, vous pouvez aller dans cette direction-là. Mais c'est la Bible qu'on suit. Et les ministres de l'Église de Dieu ont cette responsabilité d'enseigner ce qui est écrit dans la Bible, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Mais il y a un autre danger pour ceux qui sont dans l'Église, même depuis longtemps, c'est de cesser de pratiquer les choses avec cœur, de cesser de mettre en pratique ce qu'on sait être juste, ou de ralentir sur le fait de faire attention pour nous améliorer dans tous les aspects de notre vie, notre façon de parler aux autres, notre façon de les considérer. Est-ce que j'ai un esprit de service ou non? Ne pas médire, ne pas faire circuler de rumeurs, encourager les autres. Ce genre de choses-là, c'est tous les aspects de notre vie qui sont impliqués là-dedans. Et il nous faut chaque jour être conscient qui on est, être conscient de quel Dieu nous servons, et être conscient qu'on est en préparation pour bientôt enseigner au reste de l'humanité les choses que nous avons à mettre en pratique maintenant. C'est ça. C'est pour ça que Dieu nous donne de vivre ces choses-là et il nous demande de les mettre en pratique. Et si, et l'usure du temps est dangereuse dans ce sens-là, si on se laisse aller à diminuer, à diminuer, à diminuer, c'est comme quelqu'un qui s'endort un peu, là. Vous savez, il commence à somnoler un peu et puis il voit moins ce qui se passe autour et puis il finit par s'endormir. Il n'est plus là, mais parfois le train est passé ou il n'a pas été capable de réagir à temps lorsqu'il devait réagir. Et c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. C'est exactement ce qu'on retrouve dans Matthieu 25, dans la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ces deux groupes de vierges sont des membres de l'Église de Dieu. Certaines s'endorment, ne font pas ce qu'il faut avec ce qu'ils savent, alors que d'autres sont zélés, malgré leur faiblesse, mais vont de l'avant et demandent à Dieu, ils demandent sa sagesse, mettent ça en pratique dans leur vie le plus possible chaque jour. Supplie Dieu de les aider. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans nos vies que ça, après que Dieu nous a appelés? Notre vie éternelle est en jeu, et même notre vie physique, d'une certaine façon. La qualité de notre vie physique. Et tout est là. Tout est là. Dieu nous a tout donné, il nous donne tous les moyens pour y arriver. Mais si on cesse de pratiquer, qu'on commence à négliger de mettre en pratique les choses ou de ne pas être conscient qu'on doit continuer à améliorer notre caractère pour devenir comme le Christ, la Bible dit revêtez le Christ, hein? Revêtez sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon d'agir. Si on diminue de faire ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que la connaissance commence à s'en aller, la compréhension commence à s'en aller, la sagesse s'en va. Le discernement s'en va. On voit moins clair. Et moins on voit clair, moins on perçoit de choses et moins on est encouragé. Et moins Dieu répond aux prières. Parce qu'on n'est plus avec lui vraiment. Matthieu 24. Matthieu 24, c'est le chapitre où on se trouve. Le Christ donne d'autres informations à ses appelés, parce qu'il s'adressait aux gens de l'Église à ce moment-là, à ses disciples, et il s'adresse à nous aujourd'hui. Écoutez, Dieu leur dit, c'est le Christ qui parle, de discerner les temps où ils sont, discerner les temps où ils étaient. Et nous devons apprendre à discerner les temps où nous sommes. Gardez votre place dans Matthieu 24. Allons à Matthieu 16, versets 1 à 3. Matthieu 16, versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Le Christ avait fait tellement de miracles jusque-là. Et là, eux arrivent et disent, « Ben, donne-nous un signe qui vienne du ciel pour nous montrer que tu es vraiment Dieu. » Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et s'il y en a qui devaient être capables de discerner les signes des temps à ce moment-là, c'est eux, les pharisiens, ceux qui devaient s'occuper de la loi de Dieu, des textes. Ils connaissaient les textes. Et dans les textes qu'ils connaissaient, à au moins 200 reprises, il est annoncé que le Christ allait venir, qu'il allait effectuer de nombreux miracles, qu'il allait être mis à mort, qu'il allait ressusciter. Toutes ces choses-là étaient annoncées d'avance dans ces textes-là. Le Christ est en train de leur dire, c'était écrit, vous le saviez et vous n'avez pas reconnu les temps où vous vivez. Est-ce que le Christ va dire la même chose de moi ou de vous dans les temps où nous vivons, alors que les prophéties se réalisent sous nos yeux? Si on n'est pas prêt parce qu'on a négligé un si grand salut ou qu'on n'a pas mis notre cœur à vraiment servir Dieu, à apprendre sa parole et à en vivre, est-ce qu'il ne pourra pas nous dire, vous n'avez pas eu la sagesse et le discernement, vous ne m'avez pas demandé mon aide pour changer, pour vous préparer. Matthieu 24, verset 32. Matthieu 24 et le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ici au Québec, on dirait, dès que vous voyez les petites feuilles dans les trembles, je pense que c'est les premières feuilles qui sortent, je pense, au printemps, c'est ça. Hein? Dès qu'on voit la petite verdure apparaître au bout, les bourgeons commencer à colorer le bout des brindilles dans les arbres, on sait que le printemps est proche. Alors, eux, ici, le Christ leur dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, tout ce qu'il vient de leur dire, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, dont la principale chose, la grande confusion religieuse, l'importance accordée aux religions, les luttes de religion et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis en vérité, cette génération, ce groupe-là ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est ce qui se passe sur la terre actuellement. Plus on approche de la fin de cette société, plus on voit les prophéties se réaliser. Vous le savez, vous lisez les journaux comme moi. Je lis pas beaucoup de journaux, mais j'essaie de suivre quelques journaux qui peuvent avoir une certaine valeur en ce qui concerne l'information ou certains bulletins de nouvelles. Mais on dirait que les titres des journaux ou les titres des manchettes des bulletins télévisés, ça sort directement de la Bible. On est rendu à cette époque-là. On peut, nous, le vérifier. Eux qui lisaient ces choses-là il y a 500 ans ne pouvaient pas le voir comme nous, on le voit maintenant. Ils ne voyaient pas les bouleversements du climat comme nous, on les voit, par exemple, actuellement. Est-ce qu'on reconnaît les signes des temps? Pas juste pour dire, « Ah, je suis content, je sais qu'on est proche de la fin parce que les signes sont là, mais que je ne me prépare pas. » À ce moment-là, c'est comme si je ne le savais pas. On est responsable de ce que nous savons. Vous voyez en même temps, dans certaines régions du monde actuellement, notamment en France, depuis quelques semaines, plusieurs semaines, des inondations surprises qui dévastent énormément d'endroits. La mer qui déborde sur les côtes, qui rentre dans les maisons, qui détruit les commerces et des grandes parties de villes. Des inondations dévastatrices et ailleurs de grandes sécheresses en même temps. Il y a quelques heures, le gouverneur de la Californie a décrété l'état d'urgence à cause de la sécheresse à ce temps-ci de l'année. Une sécheresse qui dit ne pas avoir été notée depuis 100 ans. Une sécheresse sans précédent dans l'histoire de la Californie. On a demandé à tous les Californiens de réduire tout de suite de 20 % leur consommation de toute eau. Le taux d'humidité dans l'air est de moins de 10 % et le degré de chaleur en Fahrenheit est au plus de 85 degrés Fahrenheit le jour. Alors, ça vous donne une idée. Et là, il y a des feux de forêt et tout ça. Mais ce n'est pas fini. Et du côté de l'Australie, c'est la même chose. Il y a des centaines de feux de forêt en marche actuellement et ils ont connu la période la plus chaude de leur histoire depuis les derniers mois. Ce sont des choses qui sortent littéralement des prophéties bibliques. Vous vous rappelez, je ne citerai pas le passage, mais la Bible dit, c'est Dieu qui parle dans un de ses prophètes de l'Ancien Testament, « Je ferai pleuvoir sur une ville alors qu'il ne pleuvra pas sur la ville voisine. Il y aura des inondations à certains endroits alors que d'autres seront sous des sécheresses terribles. » Il y a 500 ans, les gens n'étaient pas dans ces conditions-là, ni même il y a 100 ans, ni même il y a 80 ans. Nous voyons ces choses-là arriver jour après jour. Nous voyons la multiplication des conflits armés. Le Christ avait dit dans les signes précédant son retour, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Donc, ça devait aller en augmentant. Est-ce qu'on ne le voit pas augmenter maintenant sur toute la face de la terre? Des horreurs qui se multiplient, des guerres, des bruits de guerre, des sans-abri, des gens chassés de leur demeure. C'est effroyable ce qu'on voit. Le développement de l'Europe unie, ça n'a pas pu se faire il y a 100 ans. Ni même dans les années 40, malgré que M. Armstrong, qui était en charge de l'Église de Dieu à ce moment-là, a dit « L'Allemagne va se relever après la Deuxième Guerre mondiale de sa déchéance et un jour, elle va occuper la prédominance en Allemagne, non seulement en Allemagne, mais sur le territoire européen et ce sera la bête en action, la dernière résurrection de l'Empire romain et ce sera appuyé par une grande puissance religieuse. » Je vous ai parlé tantôt de l'importance que la religion prend de plus en plus, et elle prendra de plus en plus d'importance avec la formation de l'Europe unie, qui sera soutenue par une immense puissance religieuse, soi-disant chrétienne, et un grand faux prophète qui va faire de grands miracles aussi, pour séduire toute la terre, comme c'est mentionné. Jérusalem qui devient point chaud de plus en plus sur la face de la terre. Ça donne à réfléchir. Vous savez, en même temps, ça donne une assurance aussi, dans le sens que la petite Église de Dieu enseigne ces mêmes choses-là depuis des années. Depuis, moi, que j'ai connaissance, ça fait plus de 40 ans que je suis là, et on annonçait ces choses-là, là, je les vois se préciser comme une image qui devient de plus en plus claire, si vous voulez. Et M. Armstrong l'annonçait depuis longtemps. Et on voit ces choses-là arriver, ça nous montre que Dieu a des serviteurs sur la face de la terre et qu'il se sert de ces serviteurs-là pour avertir d'avance les gens, alors que ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Quand M. Armstrong a dit que l'Allemagne se releverait, elle était en ruine. Il n'y avait aucun signe sur le plan humain, selon la sagesse humaine, qui permettait de croire que l'Allemagne se relèverait un jour à un tel point qu'elle occuperait la direction de l'Europe unie et qu'elle engendrerait la Troisième Guerre mondiale, ce qui s'en vient. Pourtant, M. Armstrong l'a bel et bien dit. On s'est moqué de lui dans plusieurs cercles. Il y a juste un journaliste aux États-Unis qui a rappelé les choses quand le mur de Berlin est tombé. Il a dit qu'il y a un homme sur la Terre qui avait annoncé la chute du mur de Berlin. C'est M. Herbert W. Armstrong. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Et M. Roderick C. Meredith, c'est lui qui a succédé à M. Armstrong. Il a été ordonné, d'ailleurs, évangéliste par M. Armstrong. Et il continue le même travail. Et si vous remarquez, il parle avec la même force et avec le même zèle aussi. Même malgré son âge avancé, malgré sa maladie, malgré les souffrances dans sa vie de toutes sortes, dont la perte de son épouse récemment, il continue comme une locomotive parce que lui, sa vie a été consacrée à Dieu. Il est conscient de qui il est conscient de qui Dieu est et de l'œuvre que nous avons à terminer avant que vienne la famine de la parole. Parce qu'on sait que la Bible annonce qu'un jour, nous ne pourrons plus prêcher la parole de Dieu. Ce sera terminé. Ce ne sera pas longtemps avant le retour de Christ. Vous irez voir dans Amos 3, verset 7, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ses serviteurs ne sont rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes des êtres humains. mais on voit par les fruits que l'Église de Dieu porte, parce qu'elle a annoncé dans le passé et qui s'est réalisé que où sont ces serviteurs de Dieu et qu'est-ce qu'ils font comme travail. Alors, la première séduction, c'est la séduction religieuse. J'englobe ça maintenant. J'en ai parlé rapidement et ça va aller en s'augmentant. La deuxième séduction, c'est celle de la société autour de nous. Séduction de la société moderne qui engloutit, je dirais, la vie entière des gens. Et j'ai pesé mes mots en pensant à ce passage-là, parce que la société, elle engloutit vraiment la pensée, les énergies de tout le monde. Regardez à quel point les gens courent aujourd'hui, à quel point ils sont pressés pour tout. Ils n'ont pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir, pas le temps de faire les choses qu'ils devraient faire. Ça court de gauche à droite, et sans comprendre où ils s'en vont, mais ils courent. Et les gens vont se chercher des chaînes d'endettement, de tout ce que vous voulez. Et après ça, ils sont pris, mais ils n'ont pas davantage le temps de penser non plus. On vit dans un monde d'excès pour nos sociétés abondantes. Les sociétés qui ne sont pas dans l'abondance vivent dans la misère extrême. Ce n'est pas le monde de Dieu. Comme le monde abondant de nos sociétés occidentales n'est pas le monde de Dieu non plus. Parce que qu'est-ce que nous faisons avec l'abondance que Dieu nous donne? Nous faisons le mal. Nous faisons le mal. Nous faisons la proclamation de l'homosexualité, de la bestialité, de tout ce que vous voulez. Nous sommes à l'encontre des lois de Dieu. Il n'y a plus de justice qui se prononce réellement. On vit dans une société avec toutes sortes d'excès. Excès de dépenses, excès de travail. Regardez comment les gens sont esclaves du travail. Et plus les gens travaillent, moins ils gagnent leur vie. Parce que ça devient de plus en plus serré, de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que d'autres lois de Dieu ont été brisées. Il y a des possédants qui possèdent de plus en plus, alors que les autres possèdent de moins en moins. Et les salaires sont réduits, on est dans cette course-là maintenant. Les pensions sont en train de commencer à être coupées et tout ça. Et les plus riches s'enrichissent encore davantage. On a donné des chiffres dernièrement des richesses qui se sont augmentées dans les plus possédants au cours de 2013. C'est incroyable. Ceux qui avaient des milliards en ont d'autres milliards de plus, ça vient de quelque part. Mais les pauvres sont encore plus pauvres. Ce n'est pas le monde de Dieu. Ce n'est pas le monde de Dieu. On vit dans un monde d'excès, d'extrême. Amusement à l'excès. Mais encore là, les gens n'ont pas le temps de penser. Est-ce que c'est des amusements sains qui permettent vraiment de se détendre, de créer des bons liens avec d'autres? Non. Regardez le genre d'amusement qu'il y a autour. Pas de temps libre pour à peu près personne. Pas d'endroit calme. Où est-ce qu'on trouve un endroit calme aujourd'hui? Pour avoir le temps de se laisser penser. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut se forcer pour trouver une place pour ça. Et ceux qui ont le bonheur de pouvoir avoir accès à ce genre de situation-là, c'est toute une bénédiction. Et il faut faire en sorte de s'en trouver des places, de s'en aménager un temps à nous, un temps pour récupérer, pour se fixer les bonnes priorités. M. Armstrong disait avant de mourir, simplifiez votre vie. Simplifiez votre vie. N'allez pas vous chercher des chaînes d'endettement. Simplifiez votre vie. On n'a pas besoin des choses qu'on nous annonce à grand renfort de publicité pour aller devenir esclave de ceux qui nous prêtent les activités à l'excès. Écoutez, on regarde un bulletin de nouvelles, simplement, le soir à la télévision, et dans les annonces publicitaires, dans l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous auriez peut-être 10 sorties possibles à faire. On vous annonce les spectacles qu'il y a ici à gauche, là, les parties de hockey là-bas. Allez vous acheter une voiture entre-temps. Ça fournit pas. Comme si la vie, c'était cette espèce de course insensée. Absolument pas. Absolument pas. Amusement, festival, spectacle, ça n'arrête pas tous les soirs, toutes les fins de semaine. Il faudrait être partout à la fois. La plupart des gens n'ont pas le temps de penser, donc pas le temps de discerner les choses. Ils suivent la parade. Non seulement ils suivent la parade, mais je devrais dire ils sont enchaînés aux chars allégoriques de la parade, qui sont des faussetés du monde dans lequel on vit. La plupart des gens sont totalement inconscients de ce qui s'en vient, vous savez. Et ce n'est pas pour rien que nous avons la responsabilité d'annoncer qu'il y a un monde nouveau qui s'en vient, mais qu'avant la venue de ce monde nouveau-là et du retour de Christ, il y aura des temps extrêmement difficiles, la grande détresse de 3 années et demie. Et on avertit les gens, changez de façon de vivre. Si vous changez, si vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, vous cherchez à lui plaire, Dieu promet de vous protéger des grandes choses qui viennent. Mais la société dans son ensemble va bientôt sombrer et ceux qui ne discernent pas, les choses vont sombrer avec elles, malheureusement. Et ça, c'est possible même pour des gens qui sont appelés. et même pour des gens qui sont dans l'Église depuis longtemps. Parce qu'on peut perdre ce qu'on a acquis. La Bible dit bien que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et quand on est dans l'Église depuis longtemps, il y a le risque de dire « Ah, moi je sais, ça fait longtemps que j'entends ces choses-là. La loi de Dieu, je la connais. » Oui, je la connais, mais est-ce que je la mets en pratique de mieux en mieux? Est-ce que je suis en train vraiment de m'améliorer? Est-ce que d'une Pâque à l'autre, je peux arriver devant Dieu puis dire « Dieu, regarde, j'ai travaillé de telle chose et je pense que j'ai réussi à changer telle chose. » Est-ce que c'est vrai? Ou si je prends la Pâque, parce qu'il faut prendre la Pâque, puis bon, c'est une belle fête et tout ça. Ou s'il y a un sens profond de désir de changement. La société va bientôt sombrer. Et même ceux de l'Église doivent faire attention pour pas être amenés avec elle. Parce qu'on risque d'atteindre, comment je dirais, un certain plateau de sensibilité par rapport aux événements tragiques qui arrivent autour aussi. Vous savez, quand ça fait longtemps qu'il y a des événements tragiques qui se produisent, les gens, le cerveau humain a tendance à croire que c'est comme si c'était la normale des choses. Comme si c'était pas aussi terrible. Un phénomène que j'appellerais d'habituation et qui est dû souvent à l'usure du temps. Marc chapitre 13 et le verset 35. Regardez ce que le Christ dit à ceux parvenus au temps de la fin. Parce que dans ce contexte-là, il parle de son retour ici. « Veuillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître. » On ne sait pas le moment exact. On sait la période. On sait que ça approche à cause des signes. « Veuillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, négligent, en arrêt, endormi à son arrivée soudaine. » Et il y a plusieurs places dans la Bible où il parle de soudaineté en ce qui concerne le déclenchement des derniers événements, de la dernière séquence d'événements de la grande détresse et de son arrivée. « Ce que je vous le dis à tous, veillez. » Et là, il parle de son retour. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24 et le verset 44. Regardez ce qu'il dit encore ici. Ça va exactement dans le même sens. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. » Et quelqu'un qui tient prêt, c'est comme pour un voyage, là. Les bagages sont prêts, on a vérifié les heures de départ, on a vérifié le moyen de se rendre soit à la gare, soit à l'aéroport, tout est planifié et on est prêt, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, on est prêt. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Et vous savez, Dieu n'attendra pas que tous ceux de son Église soient prêts. Je parle pas du monde, le monde n'est pas prêt. Le monde sera prêt après le retour de Christ, quand le Christ se révélera à eux, quand nous pourrons les renseigner. Mais à ceux que Dieu appelle maintenant, Dieu veut que nous nous préparions maintenant. C'est à nous que ça s'adresse, ces choses-là. Mais Dieu ne retardera pas le retour de Christ si certains ne sont pas prêts. Absolument pas. Ceux et celles qui retardent de changer, ce qu'ils savent devoir changer, vont manquer de temps. Vont manquer de temps à la fin et possiblement manquer le bateau. Manquer de temps et manquer le bateau. Une fois que le moyen de transport est parti, il n'est plus là. Soit être laissé en arrière ou soit se faire dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, il ne parle pas de faute par faiblesse, mais de quelqu'un qui vit dans le péché et qui garde volontairement certains péchés dans sa vie pour ne pas les changer. Le Christ va dire à certains, « Retirez-vous de moi, vous qui continuez à commettre l'iniquité. » Dieu ne joue pas avec ça. Dieu nous donne quelque chose de tellement grand. Il nous demande beaucoup, mais il nous promet toute l'aide nécessaire pour y arriver. Mais il dit, « Si vous ne faites pas votre part, si vous négligez, attention, parce qu'un jour, je vais tracer la ligne. » Il faut avoir la sagesse de discerner les temps où nous sommes, les signes des temps, et de discerner la volonté de Dieu. La valeur qui doit nous guider. Jacques 4, verset 17, vous pourrez aller voir qu'est-ce qui est écrit. Vous savez, chacun a la responsabilité devant Dieu de ce qu'il sait ou de ce qu'elle sait. Chacun de nous, on est responsable de ce que nous savons. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » En plus du péché, celui qui ne fait pas ce qu'il sait devoir faire commet un autre péché par-dessus, de ne pas faire ce qu'il devrait faire. 2 Timothée 2, verset 19. Vous irez voir. 2 Timothée 2, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voyez-vous, il ne s'agit pas simplement de parler du Christ ou de savoir qu'on a lu à son sujet ou qu'on fait un certain nombre de choses. Il faut s'éloigner de tout ce qui est contraire à sa loi, s'appliquer à le faire, même si on n'arrive pas à le faire tout d'un coup. Voilà le discernement, voilà la sagesse, voilà la crainte de l'Éternel. Alors, il faut faire attention à ça. L'autre domaine où on peut manquer de sagesse, c'est qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, c'est à cause de l'attrait du péché. Parce que le péché est attrayant. Et ça nous attire. Satan sait quoi mettre sur notre route pour nous attirer. Mais notre nature humaine sait ce qu'elle aime aussi, même si c'est contraire à la loi de Dieu. Et parfois, Satan, l'adversaire, sachant nos faiblesses très bien, va nous présenter sur un plateau d'argent, même après un certain nombre d'années qu'on a pensé avoir réglé tel problème, va nous ramener les choses qu'on aime dans une circonstance qui serait facile de tomber. Mais là, il faut avoir le discernement encore, il faut avoir la sagesse et la volonté de fuir les occasions. La Bible dit « Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Éloigne-toi de celui qui commet le mal. » On a chanté tantôt dans un des psaumes. Si quelqu'un est là et essaie de t'emmener dans une certaine direction, n'y va pas. Éloigne-toi de ces gens-là. Une autre séduction aussi, en plus de la séduction de l'attrait du péché, c'est la séduction par les soucis de la vie. Ça fait drôle de dire ça, séduction par les soucis de la vie. Ça nous attire pas les soucis de la vie, mais on les a. Et parfois, on peut se laisser prendre par ça et leur accorder trop d'importance. Ils sont importants, les soucis, c'est vrai. Mais faut pas qu'ils nous détournent du vrai but de la vie. Parce que sans ça, ces soucis-là sont encore là, mais vous perdez votre objectif, vous perdez le but de la vie et vous perdez la façon de vous y rendre. Les soucis, appelons-les les inquiétudes, si vous voulez, si on leur donne trop d'importance, ils prennent la place. Et l'adversaire est content à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on accorde moins de temps à l'étude biblique, à voir ce qu'on doit faire, puis on accorde moins de temps aussi au point principal là-dedans, de supplier Dieu de nous aider à passer à travers ça. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Il y a des matins, on se réveille et on sent qu'on n'a pas la force, absolument pas, de rencontrer la journée qui s'en vient. Un trop énorme. Il y a des problèmes trop gros à régler, insolubles à notre part. La première chose à faire, c'est de supplier Dieu, même si je n'ai pas le temps, de prendre le temps de supplier Dieu, de mettre ça dans ses mains, de dire « Dieu, tu es un Dieu qui répond aux prières. » Et quand on te demande quelque chose qui est selon ta volonté, tu réponds toujours « Merci de ce que tu vas faire. » Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas agir parce que je veux faire ta volonté. Et vous allez voir, la journée ne sera pas la même. Même s'il y a des choses insurmontables en avant, vous allez pouvoir les affronter. Ou Dieu va enlever l'obstacle, où Dieu va vous donner la force de passer à travers. Pourquoi? Parce que vous avez cherché à marcher avec lui, à faire sa volonté. Il ne demande pas mieux que de répondre à ceux qu'il cherche, mais il ne veut pas qu'on se laisse avoir par les soucis de la vie. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. L'autre encouragement qu'on a, on le trouve dans 1 Pierre 5, verset 7. Où c'est écrit « Déchargez-vous sur le Christ de tous vos soucis. » De tous vos soucis. Vous lui remettez dans ses mains. Mais comme disait tellement clairement M. Appartient, quand vous vous relevez de votre prière, vous les reprenez pas dans vos mains, les soucis, pour continuer à les mijoter. Vous les avez mis dans les mains du Christ. Faites-lui confiance. Laissez-lui. Faites votre part, par exemple. Allez faire votre étude. Dites merci de ce qu'il va faire. Puis pratiquez les choses que vous avez à pratiquer. Et vous allez voir les choses se réaliser devant vous. Pas par votre force, mais par la force de Dieu. Absolument. Un autre genre de séduction, rapidement, séduction par soi-même. Et c'est subtil. Être séduit par soi-même, ça fait drôle de dire ça, mais c'est réel. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, que notre cœur humain est tortueux par-dessus tout. Il dit, qui peut le connaître? Même l'être humain ne connaît pas son propre cœur. on s'amène au cinéma, on se fait croire des choses. Vous savez, vous l'avez sûrement vécu dans différentes occasions. La Bible nous dit clairement, de la part de Dieu, notre cœur humain, il est tortueux. Sans le discernement et la sagesse de Dieu, on se fait avoir même par notre cœur humain. On se plaît à croire certaines choses. On refuse de changer, par exemple, un aspect mauvais de notre vie en pensant que Dieu est content parce que nous faisons plusieurs bonnes choses à côté. Donc, vu que je fais plusieurs bonnes choses, même si je ne mets pas cela en pratique, Dieu va comprendre. Ça, c'est le cœur tortueux. Parce que Dieu dit que tout, on amène toute pensée captive à Christ. C'est dans tous les aspects de notre vie qu'on doit chercher à lui plaire. 1 Jean 1, verset 7 à 9. 1 Jean 1, verset 7 à 9. C'est important, je pense qu'on passe là, 1 Jean 1 et le verset 7 à 9. « Mais si nous marchons dans la lumière, donc dans les voies de Dieu, le Christ a dit, je suis la lumière du monde, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, donc nous sommes unis à Dieu si on marche selon les voies de Dieu, on est unis avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Pourquoi il ajoute ça après? Parce que même en faisant ça, on n'est pas encore parfait. Et il nous arrive de transgresser, de pécher. Et quand il nous arrive de pécher et qu'on se repent sincèrement en prenant la détermination, en étant déterminé de ne plus recommencer, il dit, il nous purifie dans ce temps-là de tout péché. Mais on continue à marcher dans la lumière. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou si on dit, par exemple, j'obéis à Dieu dans tellement de domaines, même si dans celui-là, je m'en permets un peu, c'est pas grave, Dieu va comprendre. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, dans un domaine, par exemple, nous nous séduisons nous-mêmes, le cœur tortueux, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, par exemple, si on les reconnaît, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est fort. C'est fort. Dieu est bon. Dieu est patient. Il nous montre le chemin à suivre, puis il nous encourage. Écoutez, il y a des écrivains qui ont parlé justement du cœur tortueux de l'homme, mais dans leurs mots à eux autres. Un dont vous avez peut-être lu certains écrits, c'est Dostoïevski, un écrivain russe. Il a écrit ceci. « Se mentir à soi-même est plus profondément ancré en nous que de mentir aux autres. » Se mentir à soi-même est plus profondément ancré en nous que de mentir aux autres. Autrement dit, se faire croire des choses. On est prêt à se faire croire, à croire les choses qu'on veut bien se faire croire. Dieu accepte que je ne fasse pas telle chose comme il faut parce que j'en fais un certain nombre correct. Voyez-vous? Alors, ça, c'est une entourloupette. C'est un mot québécois, ça, là. C'est une entourloupette du cœur humain qui nous amène à une fausseté. Vous avez le fameux Léonard de Vinci qui en a parlé aussi. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, la plus grande séduction dont souffrent les humains vient de leurs propres opinions. La plus grande séduction dont souffrent les êtres humains vient de leur propre séduction. On aime à croire ce qu'on veut croire et ce qu'on veut faire. Voici ce que je pense. Dieu ne peut pas exiger que je risque de perdre mon emploi, par exemple, pour observer le sabbat. C'est un Dieu de famille. Il sait qu'il faut que je fasse vivre ma famille. Ça, c'est des raisonnements humains, où on fait un détour pour se donner raison. Comme Léonard de Vinci dit, on se convainc que Dieu va dire non. Non, Dieu a dit, voici le sabbat, du coucher du soleil du vendredi soir, au coucher du soleil le samedi soir, vous ne travaillez pas, c'est la journée qui m'est consacrée, que je mets à part. Et Dieu, ceux qui le font, parfois ont certaines difficultés sur le champ, mais Dieu bénit ceux qui mettent en pratique ce commandement-là, comme les autres commandements d'ailleurs. Une autre séduction, c'est la séduction de ceux autour. Parce que vous savez, si vous vivez, et c'est le cas en ce qui vous concerne, je le sais, différemment de ce que vous viviez avant, vous observez plus le dimanche, ou vous observez un jour que vous n'observiez pas, vous observez le sabbat, vous observez des fêtes que vous n'observiez pas avant, les gens trouvent ça bizarre autour de vous, et certains peuvent essayer de vous décourager. C'est la séduction qui vient d'autour que j'appelle. Les gens disent, est-ce que vous êtes une grande église? Non, on est une toute petite église. Comment vous pouvez avoir raison? Il y a des millions, il y a quelques milliards, même près de 2 milliards de chrétiens qui ne pensent pas comme vous. C'est vous autres qui avez raison? Ah! En termes de réponse, je pourrais simplement dire, combien le Christ avait de personnes avec lui lorsqu'il a annoncé la vérité sur la face de la terre? À la Pentecôte, il y avait 120 personnes après 3 années et demie de prédication. Est-ce que c'était le grand nombre qui avait raison? Ou si c'était le Christ. Et si ceux aujourd'hui qui sont les serviteurs de Dieu annoncent ce que le Christ annonçait, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux, ça n'a pas d'importance, c'est le message qui compte. Et la Bible dit très bien que nous sommes un petit troupeau, les serviteurs de Dieu. Et la plus grande séduction de toutes, elle s'en vient, elle a déjà commencé, et on peut la voir en passant dans Apocalypse 13, Apocalypse chapitre 13, ça va être puissant. Apocalypse 13, et je vais en parler dans certaines émissions de télévision aussi. Apocalypse 13, verset 11 à 13, ça parle du grand faux prophète du temps de la fin, qui va faire des grands prodiges. Vous allez avoir un grand chef religieux qui est déjà grandement adulé, aimé, admiré, et qui va faire des prodiges qui ne viendront pas de Dieu, mais qui vont frapper l'humanité, qui vont frapper l'imaginaire de l'humanité. Et regardez ce qu'il est dit ici, ce que Dieu annonce d'avance par l'apôtre Jean, Apocalypse 13, versets 11 à 13. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau. » Voyez-vous, il se fait passer pour un agneau, il se fait passer pour un représentant du Christ, et qui parlait comme un dragon, par contre, qu'il dit d'observer le dimanche, qui dit que la Trinité est vraie, qui dit qu'il faut observer les fêtes du monde et non pas les fêtes de Dieu, qui dit que les fêtes dans la Bible sont des fêtes juives, et ainsi de suite. Elle, cette bête-là, exerçait toute autorité de la première bête, c'est-à-dire de l'Empire romain, qui va ressusciter en Europe en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, c'est-à-dire que l'Empire romain avait ressuscité pour une dernière fois. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et quand ça va se passer par un grand faux prophète habillé de blanc, à ce moment-là, les gens vont être en grande admiration devant ce qui se passe sur la terre. Ils vont donner leur adhésion à ce faux prophète. Et ils vont soutenir et se tourner vers la bête, la première bête, l'Empire romain. Et c'est pour ça qu'on voit dans Apocalypse 13, verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, l'Empire romain qui est mort à plusieurs reprises, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » L'Empire romain qui dominera la terre au temps de la fin. Alors, voyez-vous, ça va loin. La vaste majorité va croire à cette tromperie gigantesque. Et vous avez la description de cet impie ou de cet homme du péché dans 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 10. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 10. Il y aura une véritable euphorie sur la terre chez les gens qui vont admirer ce grand faux prophète et admirer la puissance de la bête. La Bible nous dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Nous avons à nous préparer pour enseigner les gens à discerner, à avoir la sagesse. Vous irez voir dans Ézéchiel 44, verset 23. Ézéchiel 44, verset 23, ça montre une partie du travail que nous allons devoir faire après le retour de Christ. « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. » Ils leur feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et c'est pour ça que Dieu nous dit ailleurs dans Ésaïe 55, verset 6, ça s'adresse à nous qui sommes parvenus au temps de la fin et qui sommes exposés à toutes ces sortes de confusions. Il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». C'est pour ça que je vous dis « Appliquons-nous de tout cœur à faire ce qu'il faut pour être jugés dignes d'échapper à ce qui vient et de paraître debout devant le Christ au moment de son retour. Et c'est pour ça que la Bible dit à ceux qui sont philadelphiens, qui ont tout leur cœur dans l'œuvre, à changer, à faire la volonté de Dieu, il dit Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt, c'est le Christ qui parle, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »